il y a des avantages de parler le dernier, mais il y a aussi des inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est que c'est possible que je vais me faire répéter, enfin, je vais répéter d'autres choses qui ont été déjà dites sur la liberté religieuse dans la République, dans le sujet que j'ai choisi avec le pasteur Thalès. Voilà, c'est ça. Et puis pour justement répondre rapidement sur l'intervention par rapport à la liberté, fraternité, égalité dans l'islam, je pense, vous avez des amis à Gaillac, je connais aussi des amis à Gaillac, c'est un département du Tarn que je connais très bien, mais juste je fais référence par exemple à la constitution de Médine qui date de 722 où le prophète de l'islam avait créé cette société multiculturelle et multiconfessionnelle où chacun avait le droit de culte, de pratiquer son culte en faisant société commune. Voilà. Et puis après, il y a une autre référence par rapport à l'Andalousie où il y avait quand même une... C'est une longue histoire. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais en tout cas, c'était pour une réponse rapide sur... voilà. Alors, c'est sûr, je vais parler sur la liberté religieuse dans la République. Bien sûr, un historien et plus connaisseur, je parlerai sous son contrôle pour ne pas me tromper, j'espère. Voilà. Alors, la liberté religieuse dans la République est un sujet à la fois ancien et profondément actuel. Il suscite débat, incompréhension, parfois tension. Et pourtant, il repose sur un principe fondamental, celui de permettre à des individus aux convictions différentes de vivre ensemble, dans un cadre commun. Pour comprendre cet enjeu, il est nécessaire de revenir sur la relation étroite entre deux notions, souvent mal comprises, la liberté religieuse et la laïcité. La laïcité, bien plus qu'une séparation. La laïcité est fréquemment perçue comme une simple séparation entre l'État et les religions. Cette vision est réductrice plutôt. En réalité, la laïcité repose sur un ensemble de principes fondamentaux, la liberté de conscience, la liberté religieuse, la neutralité de l'État, mais aussi l'égalité entre les citoyens, sans distinction de croyance. Égalité de traitement, ce qui est fondamental, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. J'en parlerai plus après par rapport à l'islam, parce que vous avez fait référence, j'en parlerai, mais ce n'était pas l'objet principal de mon intervention, mais je serai obligé de faire quand même référence. Ces principes ont une valeur constitutionnelle et doivent être conciliés entre eux. Aucun n'est absolu. La laïcité est donc un équilibre fragile, un système de régulation. Il est important de rappeler que la grande loi fondatrice de 1905 ne commence pas par interdire aux séparés, elle affirme d'abord que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, dans l'article 1 ou 2, dont l'a fait référence l'historien. Autrement dit, la laïcité n'est pas construite contre les religions, mais avec elles, dans un cadre de liberté. La liberté religieuse, une liberté complète. La liberté religieuse est une liberté complexe. Elle ne se limite pas à croire en silence. Elle comprend plusieurs dimensions. D'abord, une dimension individuelle, le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. Ensuite, une dimension collective, le droit de pratiquer un culte, de se réunir, de transmettre une foi, de s'organiser en communauté. Enfin, une dimension publique, la possibilité d'exprimer ses convictions dans l'espace social, dans le respect des lois. Cela signifie que la religion ne peut être confinée à la sphère privée. Elle fait partie de la vie sociale. Et c'est précisément ce qui rend son encadrement délicat dans une république laïque. La laïcité repose à la fois sur la liberté de religion et sur l'existence d'un État neutre. Ces deux éléments impliquent des droits, mais aussi des responsabilités, pour l'État comme pour les groupes religieux. Une construction historique et évolutive. La laïcité française n'est pas une idée abstraite, née d'un seul coup. Elle est le fruit d'une longue histoire, marquée par des conflits, des compromis et des évolutions. Au moment de sa mise en place, elle répondait à des tensions fortes entre l'État et certaines institutions religieuses. Mais très vite, elle s'est transformée en un modèle d'équilibre. Au fil du temps, ce modèle a dû s'adapter à la diversité des croyances, à la sécularisation de la société et à l'émergence de nouvelles religions dans l'espace public, bien sûr en métropole, parce que la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans les DOM ni dans les TOM. Et juste proche de l'autre côté de Méditerranée, des trois départements d'Algérie, la loi de 1905 n'a jamais été appliquée, d'ailleurs. L'État elle a continué toujours à gérer le culte, même à organiser des pèlerinages à la Mecque. Voilà, bon, c'est juste pour dire que les musulmans récemment installés, récemment, c'est quand même ça, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout, ils ont participé aussi à la guerre, mais le fait qu'ils s'installent, il y a plusieurs générations maintenant, bien sûr, comme je dis, amis co-religionnaires, la laïcité, c'est un avantage et c'est une chance pour les musulmans, parce que d'abord, ça leur permet de pratiquer leur culte, de construire ou d'avoir aussi des lieux de culte. C'est un avantage. Et bien sûr, et beaucoup de mes co-religionnaires tombent souvent dans la victimisation, auquel moi, je ne suis pas d'accord. Et je leur dis, vous avez une chance d'être dans une république où vous pouvez pratiquer votre culte, même dans les pays à majorité musulmane, les musulmans ne peuvent pas pratiquer ou changer des fois de croyances ou doctrines, alors qu'en France, on a le droit de changer et de ne pas avoir de religion, tout simplement. Ainsi, la laïcité est moins une doctrine figée qu'une pratique évolutive, une règle de jeu qui s'ajuste aux réalités sociales. Mais cette évolution n'est pas sans tension. Aujourd'hui encore, certains défendent une vision plus stricte, voire plus méfiante vis-à-vis du fait religieux. La finalité, construire la paix civile. Au-delà des principes juridiques, la laïcité a un objectif fondamental, la paix civile. Cela signifie permettre à des individus différents de coexister sans conflit, dans le respect mutuel. Mais cette coexistence ne va pas de soi et suppose un effort collectif. Je fais un petit peu référence au Concile Vatican II qui a reconnu les autres cultes. Et ça, c'est très important. Je pense que ce que la laïcité a apporté, surtout aux minorités, qui a apporté beaucoup d'avantages, moins peut-être à l'Église qui était majoritaire, mais je pense depuis 1965, il y a cette évolution qui a permis aussi cette coexistence avec tout le monde. Elle suppose ce que certains appellent une civilité, une capacité à accepter la diversité des convictions sans chercher à les imposer. Dans la pratique, cela passe souvent par des solutions concrètes, pragmatiques, adaptées aux situations. Par exemple, autoriser des absences pour les fêtes religieuses dans les administrations ou les écoles. Vous savez, dans les religions minoritaires, en France, dans la fonction publique, dans les collectivités, les fonctionnaires peuvent bénéficier des 2 ou 3 jours de fêtes religieuses. C'est un avantage, bien sûr. Alors aussi, proposer des alternatives alimentaires dans les cantines scolaires, dans les collectivités, ça permet aussi aux personnes qui ne veulent pas, pour qu'ils ne se sentent pas exclus, pour aussi manger dans les cantines. Peut-être pas manger de la viande parce qu'ils ne veulent pas manger de la viande pour des raisons, parce qu'ils sont pas, c'est pas kasher, c'est pas halal, ou tout simplement parce qu'ils sont végétariens, ne souhaitent pas manger, il y a cette facilité aussi. C'est important pour ne pas exclure les élèves, pour ne pas exclure les employés qui restent aussi, qui mangent ensemble, mais ne sont pas forcément obligés de manger la même chose. Aménager certains espaces dans les cimetières, ça c'est un problème aussi. Par exemple, il y a deux cimetières musulmans en France, il y a Bobigny et à Strasbourg, mais tous les cimetières sont gérés par les communes. C'est le maire qui détient le pouvoir d'autoriser ou non de construire déjà des cimetières, mais pour pouvoir avoir un carré confessionnel, c'est le maire qui donne cette autorisation ou non. Tout dépend de son bord politique. Il n'y a pas très longtemps, c'était compliqué. Et moi, de mémoire, pendant le Covid, il y avait beaucoup de décès et des personnes ne pouvaient pas envoyer les corps dans les pays d'origine. Et aujourd'hui, d'autres phénomènes, c'est qu'il y a troisième génération, les gens n'ont plus envie d'aller enterrer leurs morts dans les pays d'origine. Ils veulent enterrer en France, tout simplement parce qu'ils se disent que c'est notre pays, on doit aussi être citoyen comme les autres. Et des fois, on avait cette difficulté justement pour enterrer des personnes selon les rites musulmans. Je parle de ce que je connais. Et on avait des difficultés énormes avec quelques maires, certainement, parce que pour des raisons politiques ou philosophiques. Le préfet ne peut pas imposer aux maires de créer des carrés confessionnels. Il y a aussi encore adapter certaines règles dans les hôpitaux et les prisons. Pour les personnes privées de liberté, il y a l'aumônerie, il y a aussi des possibilités de cantiner dans les prisons. Dans les hôpitaux aussi, comme ça a été dit, permettre au culte de venir vers les gens. Voilà, dans les endroits où les gens sont privés de liberté, où ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas aller pratiquer le culte dans les églises ou dans les temples ou bien dans les mosquées, ou dans les synagogues aussi. Ces ajustements ne remettent pas en cause la laïcité. Au contraire, ils permettent de faire vivre concrètement. Elles illustrent une idée importante. L'égalité ne signifie pas uniformité. Traiter tout le monde de la manière identique peut parfois conduire à des injustices. Les défis contemporains. Malgré ces équilibres, la laïcité est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis. Le premier est celui de la rigidité. Face à des situations complexes, il peut être tentant de répondre par des règles générales et strictes, mais cela peut produire des effets d'exclusion. Le deuxième défi est celui des peurs sociales, notamment autour du communautarisme. Ce mot, moi j'ai cherché à savoir ce que c'est le communautarisme, je l'ai compris d'une manière qui est plutôt... On est dans une société où l'État ne reconnaît que des citoyens ou des individus, mais les communautés existent bel et bien. On est bien, on s'identifie à un groupe de personnes, que ce soit des loges, que ce soit on partage des idées politiques, on se retrouve avec des gens parce qu'on joue du piano. Enfin, il y a toujours des communautés, mais qui ne sont pas reconnues par l'État, mais elles existent. Et ce communautarisme qui a été plus ou moins parler des musulmans qui étaient plus communautaristes, peut-être c'est un peu abusé, mais en tout cas, je parle plutôt de refermement sur soi. Les personnes qui se renferment sur elles, ça doit être aussi même des personnes riches qui ne se mélangent pas avec des gens pauvres aussi. Hein, on peut imaginer plein de choses. Voilà. Alors, ce terme est souvent utilisé sans être clairement défini et traduit une inquiétude face à la fragmentation de la société. Justement, pour que la société reste unie, justement, il ne faut pas non plus aller dans le sens d'exclure. Et les gens s'identifient et se renferment et rester un peu isolés. Mais il ne doit pas conduire à remettre en cause la liberté fondamentale. Le troisième défi est lié au contexte international et aux tensions géopolitiques qui influencent les perception du fait religieux. Ces éléments rendent le débat plus sensible, plus politique et parfois plus passionnel. Quelle voie pour l'avenir ? Face à ces défis, plusieurs principes peuvent guider l'action publique. D'abord, éviter les réponses simplistes. Les situations concrètes nécessitent souvent du dialogue, de la nuance et parfois des compromis. Ensuite, privilégier la pédagogie plutôt que la contrainte. Comprendre des règles de la laïcité est essentiel pour les accepter. Enfin, rappeler que la laïcité impose des obligations à tous, à l'État, qui doit rester neutre et garantir les libertés, aux citoyens, qui doivent respecter les règles communes et les droits des autres. La laïcité n'est pas une arme contre les religions, elle est un cadre pour les organiser dans une société pluraliste. Un équilibre à préserver. Pour conclure, la liberté religieuse et la laïcité ne sont pas opposées, elles sont indissociables. La laïcité garantit la liberté religieuse et la liberté religieuse donne tout son sens à la laïcité. En réalité, la question n'est pas de choisir entre liberté et neutralité, mais de les faire coexister. C'est un équilibre exigeant, un équilibre qui demande du droit, mais aussi de l'intelligence collective, du respect et du dialogue. Dans un monde marqué par les tensions identitaires, cet équilibre est plus que jamais nécessaire. Car, au fond, la laïcité n'est pas seulement une règle juridique, elle est un projet de société. Celui de permettre à chacun de vivre librement, tout en partageant un espace commun. Et c'est peut-être là, finalement, la plus grande force de la République. Merci.